On a des nouveaux venus.
Qu'il y a des personnes qui n'étaient pas ici hier, qui sont ici aujourd'hui. Enseigner en pleine conscience. Est-ce que tout le monde est ici? Donc, bienvenue. Avoir la chance d'apprendre, être habile dans sa profession, pratiquer les entraînements à la pleine conscience, employer un langage compatissant, ceci est le plus grand des bonheurs. Pour les enseignants en pleine conscience, bienvenue à la retraite. Donc hier, nous avons commencé avec à voir ensemble le sutra Mahamangala Sutra et la traduction française, le discours sur le bonheur. Et la signification du titre, c'est les signes de bon augure pour une vie heureuse. Et nous avons commencé à lire les enseignements du Bouddha sur ce que peut être les grands présages pour une vie heureuse. Et je nous ai invités à l'étudier afin de pouvoir identifier dans notre vie quelles sont les conditions qui peuvent nous être propices ou qui peuvent présager une vie heureuse. On a parlé de l'environnement, on a parlé de nos relations. Et si vous poursuivez l'étude de ces sutras, vous pourriez identifier beaucoup des conditions qui sont déjà là et qui peuvent vous permettre d'accéder à ce que vous aspirez, c'est-à-dire une vie paisible et heureuse. Également, vous y verrez les choses que vous n'avez pas encore et que vous pourrez peut-être travailler à les intégrer, à les rendre possibles dans notre vie pour avoir encore plus de conditions que ce que vous avez déjà pour vous permettre d'avoir de mieux accéder ou bien d'avoir de meilleures conditions pour accéder à cette vie paisible et heureuse que nous aspirons. On avait parlé hier aussi de la pleine conscience, la pratique de l'arrêt que nous pratiquons avec notre respiration consciente et afin de pouvoir nous mettre en contact avec ce qui est, ce qui se passe dans l'instant présent et pour pouvoir nous mettre en contact avec tous les éléments qui peuvent être nourrissants afin de nous alimenter et de nous renforcer avec ces éléments qui sont déjà là tout autour de nous et nous arrêter pour pouvoir nous connecter et nous alimenter de ces sources. On avait aussi parlé de concentration et nous pouvons avoir de très bonnes idées, de très bons insights, mais c'est seulement lorsque nous pouvons nous y concentrer, rester avec longtemps ou le plus longtemps que nous pouvons pour permettre à ces idées de prendre racine ou bien à ces flashs de pouvoir vraiment se concrétiser. Et c'est la deuxième étape de la méditation que nous faisons. Premièrement, nous arrêter, nous connecter avec ce qui est, et nous concentrer sur notre observation, sur notre réflexion. Lorsque nous avons appris le Satipatthana, ou lorsque nous avons appris l'anapanasati, Le Bouddha a toujours enseigné cela. On s'arrête et on reste avec notre objet d'observation. Donc la première étape, s'arrêter, être en contact. La deuxième étape, c'est se concentrer. Et lorsque nous faisons cela, nous pouvons mieux voir. Et nous passons à ce que nous appelons la vision profonde, le Samadhi. Alors les trois piliers de l'enseignement du Bouddha, les trois piliers du village des pruniers, c'est Samadhi, pleine conscience, Samadhi, concentration, et Prajna. Prajna, c'est la vision profonde, la vision claire, la vision limpide, la sagesse. Je ne sais pas ce serait quoi la bonne traduction de Prajna. La grande sagesse ou la compréhension parfaite. Ou... En fait, c'est quelque chose qui n'a pas de nom. Puis on a parlé du nirvana, on a parlé de toutes sortes de mots qui essaient de pouvoir donner une idée de ce que ça peut être. Mais un insight ou vision ou prajna, c'est quelque chose qui nous provient de notre propre pratique et de notre propre concentration. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut décrire par des mots. Alors, lorsqu'on parle de prajna, on essaie d'expliquer, on essaie de décrire l'indescriptible. Et prajna, dans notre tradition, dans le bouddhisme, peut se comparer à la notion de Dieu, dans le christianisme. Et ok, je m'arrête là. Lily ne dit ne t'aventure pas dans ce que tu ne connais pas. Et je suis d'accord avec ça. Je ne connais pas Dieu et je ne connais pas non plus le prajna. Et je ne connais pas non plus le nirvana. Et je sais que c'est quelque chose qu'on ne peut pas connaître ou c'est quelque chose qu'on ne peut pas exprimer ou décrire par des mots. Alors, donc, je vais m'arrêter. Merci, Lily. Donc, toujours dans cette progression, arrêt, concentration, vision. Hier, nous avons regardé le sutra le Mahamangala Sutra, le sutra sur le bonheur, qui est quelque chose qui est très terre à terre, qui est très facile à vérifier et à pratiquer. L'exemple, c'est vivre dans un bon environnement. On peut le regarder, on peut le voir, on peut voir où c'est bon, où c'est moins bon, on peut travailler sur ça. Où on peut avoir la chance d'apprendre, être habile dans sa profession, pratiquer les entraînements, employer un langage compatissant. Ce sont toutes des choses qui sont mesurables, qui sont concrètes et que nous pouvons... Et toutes ces pratiques-là sont pour nous aider à pouvoir mieux nous arrêter, à pouvoir mieux nous concentrer. Et lorsque nous sommes arrêtés, concentrés, nous pouvons déceler, nous pouvons mieux comprendre. Et c'est le prajna, et c'est la compréhension et la sagesse qui vont se manifester de la même façon qu'hier lorsque j'ai parlé du noyau de lotus que nous devons frotter, que nous devons... ensuite de ça... Mettre dans l'eau, tremper, etc. Et puis là, on ne voit rien lorsqu'on le met au fond de l'étang, dans la boue. Et l'hiver passe, le printemps passe, l'été s'en vient, le soleil devient plus chaud, et tout d'un coup on voit une feuille apparaître au-dessus de l'eau, et le lendemain c'est 3-4 feuilles, et on se réveille un autre matin et l'étang est rempli. Et lorsque le soleil continue de travailler, d'être d'éclairer ses feuilles, on voit une fleur s'éclore et on regarde un peu plus en détail et on voit qu'il y a d'autres boutons qui sont en train d'apparaître. Et très bientôt, on voit tout un étang de fleurs de lotus. Et une fois qu'une fleur a commencé à s'éclore, on sait que les autres vont suivre. Et même si on veut arrêter, on ne peut plus. Et c'est ce travail que nous devons faire dans notre pratique. Et ça s'appelle la diligence. Nous le faisons sans attente. Nous faisons parce que nous avons confiance. Nous savons que nous avons cette capacité. Nous savons que nous avons de bonnes graines à l'intérieur de nous. Et nous savons que par notre vie, lorsque nous pouvons continuer d'arroser et de renforcer, d'engraisser, elles ne peuvent faire autrement que de fleurir. Et si nous poursuivons ce travail de cultivation, les fleurs vont se manifester. Et lorsque une fleur se manifeste, c'est le signe que toutes les autres sont en train de se poursuivre et vont venir. L'automne, c'est un moment idéal pour pouvoir pratiquer cette observation, cette concentration et cette vision. Je regarde de ma fenêtre cet arbre, ce vieil arbre, et ce matin, nous avons eu une réunion et Diane m'a mentionné que de souvenirs. Et cet arbre a vu beaucoup de choses. Et je me souviens d'un film que j'ai beaucoup aimé voir avec mes enfants, Pocahontas. Et le bruit du vent, et ce que le vent peut nous enseigner, et ce que les arbres peuvent nous raconter. Et ça fait partie de cette pratique que nous sommes en train de parler. Nous nous arrêtons, nous contemplons cet arbre, et cet arbre va nous enseigner le dharma. Et le sutra de la terre pure, c'est cette place où les oiseaux chantent le dharma et les feuilles et les arbres deviennent nos maîtres. Et ces états qui nous sont décrits, où nous sommes en communion avec ce qui nous entoure, c'est cet état ou cet état de grâce. Et un début est une fleur qui commence à fleurir. Et nous ne pouvons la goûter et la voir que par notre pratique du retour de la présence dans l'instant. Et la communion se fait. Et lorsque cette communion et cette communication se fait, nous comprenons et nous pouvons toucher à la présence de Dieu. Et c'est cela la présence divine, et c'est cela l'éveil, et c'est cela la compréhension parfaite. Il n'y a pas de mots pour le décrire. Il y a cet état qui se manifeste lorsque les conditions se rassemblent et sont là. Et notre pratique de tous les jours, qu'on appelle le Kung Fu, le matin, l'après-midi, le soir, à chaque pas, à chaque respiration, nous sommes en train de cultiver cela. Donc c'était le raccourci pour nous amener à la vision parfaite, la compréhension parfaite, où nous nous fondons et nous sommes dans notre environnement sans séparation. Donc, une image que j'avais évoquée lors des retraites précédentes, cette bouteille d'eau qui se retrouve dans l'océan, elle est embouchonnée, puis mais c'est ce que nous sommes finalement. Alors si nous pouvons nous sortir de cette prison qui est notre, la bouteille qui nous enferme, on serait dans notre vrai soi. Nous fondons avec tout ce qui est. Avant la retraite, j'avais demandé à Lily si on aurait la chance de lire le Sutra du Diamant. Et Lily m'a dit, je vous laisse ce soin de les endormir. Vous voulez vraiment que je le fasse? Je pense que j'aurais ni le souffle ni la voix pour le faire. Mais un Thaï nous enseigne de le lire et de le relire et d'en faire une lecture quotidienne. Parce que lorsque nous lisons ce sutra, nous faisons le travail que je viens de vous décrire, c'est-à-dire d'arroser les germes de sagesse que nous avons à l'intérieur de nous. Nous pouvons peut-être en parler et nous aurons une idée de la sagesse que ce sutra peut enseigner. Mais c'est comme le sutra du bonheur, c'est comme n'importe quoi, c'est comme notre notion du bonheur. Si nous, oh, ok, je sais, puis on le laisse à côté, il retournera à l'état de germe et il restera comme des germes jusqu'à la prochaine retraite. Et c'est pour ça que cette lecture quotidienne est la pratique que Thaï demande à ses moines de faire. Et ce n'est pas seulement ce sutra, mais c'est également tous les sutras du livre de chants, chaque lundi matin, chaque lundi après-midi, chaque lundi soir, etc. Ils ont un programme qui s'appelle Kung Fu et qui se retrouve dans le livre de chants. Et tout cela, c'est pour pouvoir arroser, nourrir ces germes afin qu'elles puissent fleurir un jour, éventuellement. Je pense que je ne saurais jamais assez insister sur ces trois pics, pleine conscience, concentration et compréhension. Qu'est-ce qui peut nous aider à nous? C'est premièrement la croyance que nous et la confiance que oui, la terre, la boue, tout est là en train d'attendre et ça ne peut faire autrement que se manifester. Avoir cette confiance que la sagesse du Bouddha, nous aussi nous l'avons à l'intérieur de nous. Tout autant que nous avons ces germes de souffrance qui ont été cultivés et qui se manifestent maintenant de façon si violente et si souffrante dans nos vies, autant nous avons ces graines de paix, de sérénité, de joie à l'intérieur de nous. Et parce que nous ne nous sommes pas donné les conditions qui sont décrites dans l'enseignement du Bouddha pour nous permettre d'accéder à cette voie pour une vie paisible et heureuse, c'est parce que nous nous sommes mis dans des conditions qui n'ont pas été favorables pour toutes ces graines qui sont là en dormance et qui attendent seulement notre présence. Alors la première condition, c'est la confiance que oui, nous avons ces graines et oui, nous pouvons aussi les faire fleurir. Et que nous avons juste à nous mettre à l'œuvre et ça va se faire. Et la deuxième énergie, ou le deuxième que ça nous prend, c'est la diligence. Alors je suis en train d'essayer de vous... Ok, c'est les enseignements des cinq énergies et des cinq powers. Les cinq facultés, les cinq pouvoirs, les cinq énergies. Alors donc, la première, c'est la confiance, la foi, La deuxième, c'est la diligence. Il faut le faire, il faut le faire continuellement. Et là, la pleine conscience va être là de plus en plus forte. La concentration suit la pleine conscience. Lorsqu'on est en pleine conscience, la concentration vient. Si nous maintenons la pleine conscience sur l'objet d'observation, c'est cela la concentration. Et lorsque nous nous concentrons, de la même façon que je vous ai invité à vous attacher à cette notion du bonheur que vous aviez hier, vous restez avec pendant la fin de semaine et ça devient de la concentration. Et à la fin de la retraite, vous verrez mieux ce que c'est et comment vous pouvez parvenir à ce souhait que vous avez exprimé. Lorsque vous l'avez énoncé hier, le Bouddha était là, le Bouddha vous a entendu. Et il est là, prêt à vous aider à le réaliser. Mais ne l'oubliez pas. Il ne vous oublie pas, il vous a entendu, mais vous ne l'oubliez pas. Donc le sutra du diamant. C'est trop court, j'aime mieux lui. Vajra, c'est diamant. N'est-ce pas? Et je ne sais pas comment prononcer ces mots. Shedika, c'est qui coupe les afflictions. Prajna, c'est la sagesse, la vision profonde. Paramita, c'est le moyen qui nous permet de pouvoir passer vers l'autre rive. Merci pour la cloche de pleine conscience. Donc, Prajna Paramita. Traverser les océans de souffrance pour atterrir sur la rive de la libération. Prajna par la compréhension, la compréhension qui nous permet de pouvoir traverser les océans de souffrance et arriver à la rive de la libération. Et nous avons récité souvent le Prajna Paramita. Le cœur des enseignements, le cœur de la Prajna Paramita, c'est le résumé, le sommaire de toute la série d'enseignements du Prajna Paramita. Et le sutra du diamant, Vajra, qui coupe les afflictions, qui tranche entre les afflictions, fait partie de cette collection du Prajna Paramita, et c'est un des premiers enseignements, un des premiers volumes de cette série. Et j'aime beaucoup la façon dont le Bouddha enseigne. Il faut croire que le Bouddha et Lili sont un peu différents là-dessus. Lily est très compatissante et Lily veut nous sauver beaucoup de travail. Et Lily donc prend des extraits, nous donne un résumé, un sommaire et nous dit c'est ça. Et c'est super et c'est un trésor. Mais c'est comme essayer de tirer la fleur de lotus de la boue sans avoir fait le travail de limer l'écaille, de s'asseoir, de se poser et de laisser l'alaya se travailler afin que ça devienne une vision. Lily a fait le travail. Je l'ai observé pendant 25 ans et je sais en travers de quoi elle a passé pour pouvoir comprendre ce qu'elle vous a transmis aujourd'hui dans la lecture. Alors, réjouissez-vous, parce que Lily est en vous, donc Lily a fait le travail, et Lily vous partage les fleurs de sa pratique. Mais, à moins que Lily soit vraiment à l'intérieur de vous, que Lily soit en vous, cette fleur-là restera la fleur à lily et ne pourra être la vôtre. Alors, lorsque nous lisons ce sutra, nous voyons comment les maîtres dans le temps enseignaient avant l'avènement des iPhones et des photocopies. Voici ce que j'ai entendu un jour. Le Bouddha demeurait dans le monastère du parc d'Anapindika, dans le bocage de Jetta, non loin de Sravasti, accompagné de 1250 bhiksus, moines pleinement ordonnés. Pourquoi il y a cette phrase-là? C'est pour nous préparer. Voici ce que j'ai entendu un jour. Le Bouddha demeurait dans le monastère du parc d'Anapindika, dans le bocage de Jetta, non loin de Sravasti, accompagné de 1250 bhiksus, moines pleinement ordonnés. Lorsque je lis cette phrase, lorsque je l'entends, et que je m'assois, cette communauté apparaît. Et le Bouddha apparaît. Et je me mets dans cette condition où le Bouddha est là et le Bouddha est en train de parler. Alors c'est la première étape de notre pratique, c'est l'arrêt, le retour, et nous ouvrons le cœur et nous écoutons. Et lorsque nous nous mettons dans cet environnement, nous faisons partie de la communauté du Bouddha d'il y a 2600 ans. Et nous sommes prêts à recevoir l'enseignement. Ce jour-là, à l'heure dite pour les aumônes, le Bouddha mit sa robe de Sangati, prit son bol, entra dans la ville de Sravasti, allant de maison en maison afin d'y mendier sa nourriture. Après avoir recueilli tous ses dons, il revint au monastère afin d'y déjeuner. Après avoir fini son déjeuner, il ôta sa robe, posa son bol, se lava les pieds, disposa son coussin et s'assit. Alors il nous amène dans le contexte où le sutra était en. Et puis on rentre dans les personnes, dans l'audience qui était là lorsque le sutra a été délivré. Alors toutes ces choses-là, oui, on peut les enlever parce que ça fait. C'est pas dans l'enseignement. Mais ça nous met dans. Et puis je vais vous dire comment Lily l'a fait. Elle avait à son chevet, un livre qui s'appelle Sur les traces de Siddhartha. Et le soir, en se couchant, elle lisait cela. Et elle me disait, lorsque je suis dans ce livre, je me remets dans les portes du Bouddha. Et c'est pour ça qu'elle est en contact avec cet enseignement. Et lorsqu'elle lit un enseignement, elle est dedans, parce qu'elle l'est dans cet environnement. C'est très différent de le lire avec cette préparation et que de le lire comme un livre de recettes. Donc, je me mets dans le temps, je me mets dans la communauté du Bouddha, je regarde comment le Bouddha il fait, et c'est une journée normale pour le Bouddha. Le matin, il se lève, il fait sa méditation, il fait ses concentrations, il se lève, il va pratiquer la marche méditative, puis lorsqu'il rencontre du monde, il donne des enseignements, puis à la fin de sa ronde, il revient chez lui avec son bol plein d'aliments, et il se partage cela, et il mange dans la pleine conscience. Et dépendamment des conditions, il y a quelqu'un qui vient lui poser une question, et il répond, et il donne un enseignement. À ce moment, le vénérable Subhuti se leva de son siège, rejeta son manteau sur son épaule droite, posa un genou au sol et joignant les mains en signe de respect, s'adressa au Bouddha. Alors, ça nous donne encore cette révérence et ce respect que les élèves, les étudiants du Bouddha avaient envers leur maître. C'est leur façon de faire pour se présenter au Bouddha et pour lui poser une question. Et c'est là que je n'aime pas la traduction, Lily. Honoré de par le monde, un être tel que toi est chose rare. Depuis quand as-tu toi notre maître? tu soutiens toujours fermement les bodhisattvas et tu leur accordes ta pleine confiance. Honoré par le monde, si les fils et filles de bonne famille entendent donner naissance au sublime et parfait esprit d'éveil, sur quoi doivent-ils tabler et que doivent-ils faire pour maîtriser leurs pensées? Alors, c'est une question qui est très pratique. C'est une question que nous pourrions poser au Bouddha s'il était présent ici chez nous. Et ça ressemble beaucoup aux questions que nous avons vues dans les questionnaires pré-retraite. Comment est-ce que je peux faire pour pratiquer la maîtrise de mon esprit? Comment est-ce que je... Une question très directe et très simple. Donc, comment parvenir à l'éveil? De quoi se quoi tabler? Comment pratiquer pour pouvoir maîtriser leurs pensées? Voilà qui est parlé, Subhuti, répondit le Bouddha. Tes mots sont d'une absolue justesse. Le Tathagata soutient toujours fermement les Bodhisattvas et leur accorde sa pleine confiance. Aussi, écoute avec la plus grande attention et le Tathagata répondra à ta question. Si les fils et filles de bonne famille entendent donner naissance au sublime et parfait esprit d'éveil, ils doivent tabler sur ce qui suit et maîtriser leurs pensées de la manière suivante. Seigneur, fit le véritable Subhuti, nous sommes heureux d'entendre ton enseignement. Le Bouddha dit alors à Subhuti, voici comment les bodhisattvas, mahasattvas maîtrisent leurs pensées. Quel que soit le nombre des êtres vivants, qu'ils soient nés d'un œuf, d'une matrice, de l'humidité ou spontanément, qu'ils aient une forme ou non, qu'ils aient une perception ou non, ou qu'on ne puisse même dire s'ils perçoivent ou s'ils ne perçoivent pas, nous devons tous les conduire à l'ultime nirvana afin qu'ils soient libérés. Et lorsque ces êtres au nombre fini et sans mesure seront libérés, nous ne croyons pas en vérité qu'un seul être aura été libéré. Pourquoi cela? Si un Bouddha, Bodhisattva Subhuti, entretient l'idée d'un soi, d'une personne, d'un être vivant ou d'une existence, il ne saurait être un authentique Bodhisattva. En outre, Subhuti, lorsqu'un Bodhisattva pratique la générosité, il ne s'attache à aucun objet, autrement dit, il ne se lie à aucune forme, aucun son, odeur, saveur, objet tangible, ni à aucun dharma. Tel est Subhuti, l'esprit dans lequel un bodhisattva doit pratiquer la générosité, sans s'attarder aux apparences. Pourquoi? Si un bodhisattva pratique la générosité sans s'attacher aux apparences, le bonheur qui en résultera ne saurait être conçu ou mesuré. Crois-tu, Subhuti? Ils sont en train de dormir. Est-ce qu'ils sont... Ok. J'ai réussi. Yes. Donc, je continue. Thay dit que c'est parfait lorsqu'on dort pendant un Dharma Talk. Diane est en train de me dire « Janui accouche parce que l'heure approche. » On a encore le temps. Il y a deux, trois choses importantes qu'on pourrait... retenir de ce sutra. Il y a la dialectique. Et j'aime beaucoup la dialectique du sutra du diamant. J'aime ça parce que c'est un casse-tête chinois. Et beaucoup d'historiens et de recherchistes se sont cassés la tête pour essayer de comprendre le sutra du diamant par leur intellect. Et ils sont devenus fous. C'est vrai, n'est-ce pas? Non, dans le temps, les Anglais allaient dans ces pays-là et pillaient, prenaient tout ce qui était précieux. Et naturellement, les écrits du Bouddha étaient convoités. Et ils les ont ramenés à Londres, dans la Bibliothèque nationale. Ils se sont mis à éplucher, à essayer de comprendre. Et ceux qui n'ont jamais pu comprendre, c'est 1 égale A. ça, tout le monde le connaît. Et on le sait, on le comprend. Et c'est comme ça que nous opérons dans notre vie de tous les jours. Chenhui et Chenhui. Ben oui. Mais le sutra du lotus dit, du diamant dit quelque chose de différent. Non, ce n'est pas vrai. A n'est pas A. Et lorsque vous dites que A est A, vous vous trompez. Ce n'est pas vrai. Parce que A n'est pas A. A est fait de tout ce qui n'est pas A. Et lorsque vous comprenez que A n'est pas A, là vous pouvez comprendre que A est vraiment A. Mais tant que vous n'avez pas vu que A n'est pas et A, ou bien que vous persistez à croire que A est A, vous êtes dans l'ignorance. A n'est pas A, et c'est pour ça que A est vraiment A. Le maître Zen qui pratique, lorsqu'il commence sa pratique, il regarde la montagne, et il voit que la montagne est une montagne, ou bien en rentrant dans sa pratique, il voit, oh, je m'arrête et je vois une montagne, la montagne est là, et c'est là. Il commence à pratiquer le dharma, et on lui dit, non, la montagne n'est pas montagne, c'est pas une montagne. Et la rivière non plus. Alors au début de sa pratique, une montagne est une montagne. Il pratique et il commence à voir qu'une montagne n'est pas une montagne. Et après avoir bien regardé la montagne et compris ce que c'est que la montagne, la vraie nature de la montagne, c'est là qu'il comprend et qu'il peut voir la montagne. Et c'est comme ça que Thay l'a résumé l'enseignement qui a cassé la tête à tous ces chercheurs. Thay nous l'a enseigné sous d'autres formes. Et dans un des enseignements qu'il nous a donné, c'est comment regarder, observer une fleur. Et il nous montre une fleur. Il nous dit, regardez cette fleur, observez cette fleur. Qu'est-ce que vous voyez? On regarde la fleur, on voit c'est une fleur. C'est quoi ta question? C'est quoi ton problème? Et là, Thay commence à dire, imaginez-vous, si je prenais le soleil et que je la sortais de la fleur, est-ce qu'il resterait fleur? Pouvez-vous voir la pluie dans cette fleur? Pensez-vous qu'elle peut être ici s'il n'y avait pas de pluie? Voyez-vous le cultivateur qui a travaillé très fort afin de pouvoir faire fleurir cette fleur? Voyez-vous la présence de la terre, des engrais, du soleil et de la pluie? En fait, si on regarde la fleur de cette façon-là, on pourra voir que tout ce qui est non-fleur, en fait, ce que la fleur puisse être présente, puisse exister. Donc la fleur contient tous les éléments non-fleurs. Et c'est lorsque nous pouvons voir que tout l'univers a contribué à rendre cette fleur possible, que nous pouvons voir la vraie nature de la fleur. Une fleur est une fleur. Mais une fleur n'est pas seulement une fleur. Une fleur est tout ce qui est non-fleur. Et pouvoir voir tout ce qui est non-fleur dans la fleur, c'est voir la vraie fleur. Et c'est cela l'essence de la série de la Prajnaparamita. Comment parvenir à l'autre rive, à la rive de la non-mort, de la non-naissance, à la rive de la libération. Thay a résumé cela aussi dans un mot. Inter-être. Rien ne peut exister par soi-même. Tout doit inter-être avec tout ce qui est, afin de pouvoir être. Et puis je viens d'utiliser le mot être, et je viens encore de me tromper, parce que rien ne peut être sans que tout le reste soit. Inter-être. Tout ne peut qu'inter-être avec tout le reste. Et C'est la crème de l'enseignement du Bouddha. Et c'est notre pratique. Lily a aussi pu retenir pour cette communauté un grand tableau de Thaï, une grande calligraphie de Thaï. Et les calligraphies de Thaï maintenant sont inestimables parce que Thaï ne peut plus écrire. Je ne sais pas, je n'ai pas été sur eBay pour voir combien ils sont rendus, mais c'est un trésor. Un trésor pour cette communauté. Alors la grande calligraphie qui est cachée en arrière des paravents, puis je ne sais pas pourquoi on la cache. Inter-être, c'est notre pratique et c'est notre cœur. Le cœur des enseignements, la crème des enseignements. Puis vous voyez, c'est... merci Diane pour m'avoir poussé à le faire. Mais l'enseignement peut être résumé en 3 minutes. Mais l'enseignement donné en 3 minutes ne peut pas être très utile. Parce qu'à moins de pouvoir en faire une pratique, d'en faire... afin que ça soit une vision, afin que ça nous trempe, afin de que nous soyons inter-être. C'est juste une notion de plus. Et l'enseignement de ce sutra, c'est justement cela. Et c'est pour ça que je ne voulais pas le faire, mais la pression de mes sœurs ne ce sutra nous dit, on a trop de notions, on a trop de connaissances, on a trop de concepts. Et l'enseignement du sutra du diamant, c'est débarrassez-vous-en. Et je m'excuse de vous en avoir donné un autre. Mais quand Thaï a enseigné ce sutra, il l'a résumé d'une autre façon. Il a dit, ce sutra is throwing away. Throwing away. Toutes vos connaissances, tous vos concepts, toutes vos idées ne sont que des poids qui vous empêchent de pouvoir comprendre et d'accéder à cette réalité ultime. Et Thaï nous donne, et le Bouddha nous a donné plein d'exemples dans le sutra, de concepts qui nous retiennent et qui ne nous empêchent de pouvoir nous libérer. Alors tout ce que nous ce sutra, ce qui nous enseigne vraiment, c'est enlever toutes vos croyances, concepts, parce que ce sont toutes des barrières, des obstacles à votre libération. Et c'est pour ça qu'il est long. Il est long parce qu'il passe en travers de toutes les notions et concepts qui nous emprisonnent. Et les 4 notions et concepts qui nous emprisonnent, avec quoi le Bouddha commence à nous enseigner. La notion du soi, le plus gros, la bouteille. On s'enferme dans cette bouteille, on se dissocie de tout ce qu'il y a autour. Et c'est ça la plus grosse cause de notre souffrance. Alors le Bouddha nous dit, ce soi, cette notion du soi, cette croyance que vous avez, que vous êtes séparé de tout le reste, regardez-la et débarrassez-vous-en. Et le soi, il l'a tellement bien enseigné avec l'exemple de la fleur. Et lorsque nous pouvons voir la fleur avec tous les éléments non-fleurs, et que nous voyons la vraie fleur, nous pouvons voir que Hélène n'est pas Hélène, mais que Hélène est faite de tout ce qui est non Hélène, et nous nous voyons dans elle. Et c'est là que nous commençons à percevoir un peu d'Hélène. Et lorsque nous pouvons voir Hélène de cette façon, Nous pouvons nous voir en Hélène, mais nous pouvons voir aussi Bouddha en Hélène. Et comment est-ce que Thaï nous enseigne cela? Il nous enseigne lorsque nous saluons quelqu'un. Je vous salue Monique, Bouddha en devenir. Et lorsque je salue Monique et que je vois le Bouddha en elle, ça me reflète et je vois que je suis aussi Bouddha. Et que je, parce que je suis en Monique et que le Bouddha est en Monique, on est ensemble. Maintenant, à l'instant même où je la salue, et on peut se prendre la main et pratiquer la marche ensemble. Et c'est pour ça que Thaï dit, je marche avec le Bouddha chaque matin. Parce qu'il est capable de voir qu'il n'est pas Tignacan. Alors donc, la notion du soi est la première notion que le Bouddha nous invite à transcender, à nous en libérer. La deuxième notion, c'est la notion d'être humain. Donc, c'est très facile, une fois qu'on a compris le premier, de comprendre l'autre après. Si nous sommes faits de tout ce qui est non-nous, ben, un être humain est fait de tout ce qui est non-être humain. Et hier, Lily a rappelé un bel enseignement, un autre enseignement de Thaï. C'est quoi? Vous parliez de la vache hier. Hier, vous parliez de la vache. Le matin? Ok, madame. Donc, la vache, ma mère. Excuse maman. Mais, et lorsque nous récitons des cinq contemplations, cette nourriture donc du ciel et de beaucoup de travail, etc., puissions-nous vivre de façon à bien la mériter? Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de regarder cette nourriture pour voir qu'elle provient de tout l'univers, que tout l'univers s'est mis ensemble pour nous apporter ce plat, et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons le consommer. Et donc, nous sommes cette nourriture, et nous sommes la vache, non, il n'y a pas de oui, qui a produit le lait et le fromage, etc. Et nous sommes tout ce qui est non-être humain. Mais, dans notre façon de regarder, il y a les êtres humains et il y a les non-êtres humains. Et on oublie que les forêts, que notre environnement, c'est aussi nous. Et nous sommes notre environnement. Et quelqu'un hier m'a vu pour en entrevue pour l'écologie. Et lorsque Thaï enseigne cette notion, il dit que c'est le meilleur enseignement écologique qu'il peut y avoir. Parce que si l'homme, je peux dire homme, donc si l'être humain croit qu'il est séparé de tout ce qui est non-être humain, il est dans l'erreur et dans l'ignorance. Et c'est parce qu'il est dans cette ignorance qu'il croit que tout ce qui est non humain est là au service des humains. Et c'est pour ça que nous agissons de façon si irrespectueuse envers notre environnement, parce que nous ne savons pas que nous sommes en train de nous tuer nous-mêmes. Donc c'est le genre de message que vous pouvez partager. La troisième, c'est... Ok, excusez-moi, j'ai... Whatever. Et notre notion, c'est la durée de vie, lifespan. Durée de vie. Ma mère est décédée le 29 août 2018. Et elle n'est plus. Elle était née le 3 mai 1930 et a vécu 88 ans. Ce sont des faits. Elle a un certificat de naissance et j'ai son certificat de décès. Et donc, vous avez entendu ce matin parler de signes et de conventions. Et selon ces signes et ces conventions, elles n'existaient pas avant le 3 mai 1930. Et un des exercices que Thay nous a donné lorsqu'on a commencé notre pratique, c'est de quoi avait l'air, de quoi ta grand-mère avait l'air avant ta naissance. Alors c'était un thème de méditation que notre maître nous a donné. De quoi avait l'air ta grand-mère avant ta naissance? Et ce sont des trucs zen comme cela qui m'ont attiré. J'aime beaucoup ce genre de choses. Ça fait mystique, ça fait... Puis c'est des conversations. Mais ce sont des indices, ce sont des façons à nous entraîner à réfléchir d'une certaine façon pour transcender ces notions. On pense qu'on est né à une certaine date parce que notre date de naissance est inscrite sur un papier par quelqu'un, quelque part, à un moment donné. Mais, si nous nous asseyons en méditation et nous commençons à travailler sur cette question, qui est en fait un koan, et que nous nous concentrons sur cette réflexion, nous pourrons peut-être voir à un moment donné que nous avons déjà été là bien avant notre naissance. Parce qu'avant notre naissance, on était déjà dans notre mère et dans notre père. Et avant cela, ils étaient dans leurs parents. Et on était déjà avec eux depuis bien longtemps, bien avant cette date qui est notre date de naissance. Et si on peut voir qu'on a déjà existé bien avant, on peut voir qu'à la date où quelqu'un va dire qu'on est décédé, on se continue, on se poursuit. Et à cette date, c'est seulement un signe, une convention qui ne reflète pas la réalité. Et que la personne que ma mère était beaucoup plus que ce corps qui était souffrant dans son lit d'hôpital. Il y a une partie d'elle qui est en moi et qui se poursuit et que je suis en train de vous transmettre. Et vous pouvez voir ma mère en moi. Et elle est en train de vous parler. Et lorsque vous pouvez voir cela, vous souviendrez, oh, la maman de Chen Hui nous a parlé de la durée de vie. Mais ce n'est pas juste ma mère qui est là. Il y a aussi mes enseignants, il y a mes maîtres, il y a Lily, il y a Diane qui essaie de me dire que l'heure est arrivée. Et l'heure est arrivée, je le sais. J'ai médité sur ce thème depuis le début de ma pratique avec Thay. Et Thay maintenant est au Vietnam. Et tout le Vietnam est très heureux de le voir revenir. Pouvoir revenir dans son pays sur sa chaise roulante. Et je me réjouis avec tout ce peuple et je me réjouis avec Thay parce que je sais combien il doit être heureux de pouvoir retourner sur cette terre natale. 88-89, Thay était dans une retraite à New York et il était très malade et on pensait qu'il allait mourir là. Deux jours après, il a continué d'enseigner et en écrivant, il s'est retourné vers son auditoire et il a dit « Ceci n'est pas la dernière retraite. Ce n'est pas encore la dernière retraite. » Et ça nous a beaucoup soulagés. Mais je l'aimais beaucoup et j'étais nouveau dans cette pratique. et j'avais beaucoup de douleur, de souffrance à penser qu'il pouvait mourir. Et je me suis mis à pratiquer. Et je le voyais mort. Et comment? Donc je pratiquais la naissance et la mort en regardant mon maître que j'adorais. Et maintenant, et c'est cette leçon et cette concentration qui m'a permis de pouvoir très bien accueillir la mort de ceux qui m'entourent ou de ceux qui sont autour de moi. Parce que j'ai appris à les voir dans leur vraie nature. Un autre exemple que Thay donne sur la vie et la mort, c'est un tea bag. Alors il prend son sac de thé. Il dit, regardez comment c'est merveilleux. L'est, la rencontre de l'Est et de l'Ouest. Donc le thé qui parvient, avec la technologie, on a su comment l'envelopper pour faire ça de façon très belle. Et une fois qu'on a le thé bien infusé, qu'est-ce qu'on fait du sac? Et on dit, le sac est mort. Oui, c'est vrai, il est parti dans les détritus. Mais la meilleure partie du thé, c'est ce qui est dans son verre. Et lorsqu'il prend son thé, il dit, le thé est en train de, va contribuer à mon dharmatok. Et lorsqu'il donne son enseignement, c'est la vache qui lui a servi son petit déjeuner, et c'est le thé qu'il a pris pour pouvoir avoir l'esprit clair pour parler. Alors aujourd'hui, le thé qu'il a pris ce jour-là est devenu un dharmatok d'aujourd'hui. Et c'est comme ça que Thay est, c'est comme ça que nous sommes, c'est comme ça que nos proches sommes. Nous sommes beaucoup plus que le sac de thé qui s'en va au recyclage. Est-ce qu'on peut recycler un sac de thé? Et nous avons déjà transmis notre meilleur depuis longtemps. Et tout ce que nous sommes, toutes ces parties-là sont en train d'être transmises partout. Et la partie du corps qui va être débranchée, le corps qu'on va retrouver dans un pot. Je vais ramener le pot au Vietnam pour que les cendres de ma mère puissent rejoindre ses parents. Mais c'est juste de descendre. Le meilleur est un peu partout. Et ici aussi, avec tous les grands êtres. Mon maître est ici. Le Bouddha est ici. Le Seigneur Jésus est ici. Tous les êtres sont avec nous à tout instant. Et nous sommes nés depuis the non-beginning of time. Le temps qui ne finit jamais. Et c'est cela notre vraie nature. Et c'est l'enseignement du Sutra du Diamant. Et c'est l'enseignement de la série de la collection Prajnaparamita.